Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Léa Lisa Vesterov.
Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe consacré ce dimanche à la régulation du numérique. L'Europe peut-elle contrer les abus des géants américains et mieux modérer les contenus en ligne ? Garantir un Internet plus sûr à ses citoyens et respectueux des lois ? C'est ce que promettent deux règlements sur lesquels le Parlement européen et le Conseil, où siègent les États membres, viennent de se mettre d'accord. Le DSA et le DMA, deux textes chargés d'encadrer et de mieux réguler en Europe les contenus en ligne et les plateformes. Qualifiés d'historiques par les institutions européennes, ces textes vont-ils réussir à remettre de l'ordre dans le chaos et forcer Google, Facebook ou Amazon à jouer le jeu de la transparence et du respect des lois ? C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités. Stéphanie Yoncourtin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputée dans le groupe Renew Europe et vous êtes vice-présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires. Avec nous dans ce studio, Henri Isaac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président du think tank Renaissance Numérique et maître de conférences à l'Université Paris-Dauphine en système d'information. Bienvenue à vous deux.
I've been wondering...
Je me suis demandé comment trouver une métaphore, car ces deux propositions de loi sont assez complexes. Et la meilleure image que j'ai trouvée est celle du premier feu rouge qui a été installé pour réguler le trafic. C'était aux États-Unis, dans l'Ohio, à Cleveland. Et ça a été inventé comme une réponse à une révolution technologique majeure, l'invention de la voiture. Et je pense que comme à l'époque, c'était il y a plus de 100 ans, aujourd'hui nous avons une telle augmentation du trafic en ligne que nous avons besoin d'avoir des règles qui créent de l'ordre dans le chaos. Et c'est là tout l'enjeu du Digital Service Act, créer des règles, faire du monde en ligne un espace sûr, fiable pour les utilisateurs de ces routes numériques.
Vous venez d'entendre la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, il y a un peu plus d'un an, lors de la présentation de ces deux règlements à Bruxelles. Stéphanie Yoncourtin, je m'adresse à vous pour rester sur cette métaphore. Il y avait urgence à mettre des feux rouges.
Oui, il y avait urgence, effectivement, parce que c'était le Far West numérique. Il s'était passé énormément de choses sur cet espace numérique et on a vu que la crise de la Covid a d'ailleurs renforcé notre dépendance au numérique. Et donc, ces géants du numérique, qui sont ces mastodontes, ont développé des réseaux tentaculaires sans qu'il y ait de réglementation. Et l'Europe, en fait, est vraiment le premier continent à engager une réforme globale de l'espace numérique pour à la fois les aspects sociétaux, les contenus, les produits et économiques, les marchés.
C'est vrai que la réglementation européenne applicable aux services numériques datait de l'an 2000, une époque où les réseaux sociaux et les smartphones n'existaient pas. Je me tourne vers vous, Henri Isaac. Cette réglementation, il fallait la moderniser ?
Oui, parce qu'en 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Les usages numériques ont totalement changé. Les échanges numériques ont progressivement pris une ampleur considérable. Il suffit de voir le développement des acteurs qu'on évoque et leur chiffre d'affaires. Et puis, effectivement, les régimes de responsabilité, notamment pour... les plateformes qui hébergent des contenus produits par des utilisateurs qui dataient du début des années 2000, effectivement, ne correspondent plus du tout à l'usage actuel et que donc il était absolument nécessaire de revoir pour tenir compte de ce que font les citoyens avec ces plateformes et puis effectivement de repenser une partie des règles pour pouvoir justement encadrer ces activités.
Alors on va tout au long de cette émission à revenir dans le détail sur ce que ces deux règlements assez complexes finalement, la législation sur les services numériques, le DSA, et sur les marchés numériques, le DMA, change potentiellement pour le citoyen européen. On l'a dit, ces deux textes visent à mieux contenir la puissance de ces gigantesques entreprises du numérique. Je vous propose de nous arrêter d'abord en Irlande où ces GAFAM ont choisi de s'installer pour des raisons fiscales avantageuses. Laura Taouchanoff, vous êtes notre correspondante à Dublin, bonjour.
Bonjour à tous.
Et pendant des années, ces multinationales ont en réalité fait un peu ce qu'elles voulaient, Laura.
Oui, jusqu'à présent, c'était la loi du plus fort, un Far West géant, selon les mots du commissaire européen Thierry Breton. Et les deux ans de crise Covid n'ont rien arrangé. Ces grosses entreprises qui vivent du numérique en sortent souvent renforcées et plus que jamais dominantes sur les marchés et dans ce monde anarchique. Difficile de réguler la haine en ligne, la désinformation, le partage des données. Voilà ce que l'Europe espère changer en surveillant davantage ces géants du numérique, donc Google, Facebook, Apple et autres. Ces GAFAM sont vraiment la première cible de cette législation européenne.
Les GAFAM ont-ils vraiment beaucoup à perdre avec ces deux outils de régulation, Laura ?
Eh bien, c'est du DSA que ces géants ont le plus peur, donc le Digital Service Act, autrement dit la législation sur les services numériques, parce qu'ils visent par exemple les algorithmes des moteurs de recherche. Les entreprises devront partager leurs données en toute transparence avec les chercheurs pour permettre leur contrôle. Et le risque pour eux, c'est bien sûr de devoir dévoiler leurs secrets. Le DSA met aussi la pression sur les contenus illicites et la modération des contenus préjudiciables. Donc c'est tout ce qui est désinformation, par exemple.
La mesure s'attaque aussi à la publicité, qui est au cœur de leur modèle économique.
Oui, il faut savoir que Google et Facebook comptent plus de la moitié de la publicité en ligne dans le monde. C'est donc une manne financière gigantesque. Et c'est la publicité politique qui est notamment visée, donc tous ces messages d'un parti ou d'une personnalité politique, puisqu'ils peuvent vraiment influencer le résultat d'une élection. Bruxelles veut plus de transparence et que les utilisateurs sachent qui finance cette publicité. Et puis, autre changement, les plateformes seront aussi obligées de fournir au moins un système de recommandation de contenu qui ne s'appuie pas sur le profil de leurs utilisateurs, pour qu'ils aient plus de choix, tout simplement. Par exemple, si vous utilisez Google, vous avez plus de chances d'aller sur Google Flights pour chercher un billet d'avion. Vous pourrez désormais désinstaller toutes ces applications préinstallées sur votre ordinateur ou votre téléphone.
Et puis, il y a ce nouveau système d'amende.
C'est vrai qu'il était difficile d'agir jusqu'à présent, puisque les amendes ne font presque rien à ces entreprises. Pour rappel, Google a empoché 76 milliards de dollars en 2021. Mais avec ces mesures, l'amende est plutôt salée là pour le coup, jusqu'à 20% du chiffre d'affaires annuel. C'est le double de ce qui avait été proposé par la Commission européenne. Et la sanction peut aller jusqu'au démantèlement dans certains cas. Bref, c'est peut-être la fin d'une époque pour les géants du numérique.
Stéphanie Oncourtin, en tant qu'eurodéputée, vous avez participé à la rédaction du Digital Market Act, vous en êtes la rapporteure, 20% du chiffre d'affaires annuel. Ces amendes, ces sanctions, c'est réalisable, utile ?
Alors, c'est utile, parce que en fait, le DMA, il part du postulat, finalement, le Digital Market Act, que l'expérience des 20 dernières années en matière de droit de la concurrence n'ont pas été du tout satisfaisantes. Les sanctions qui ont été imposées jusqu'à présent, vous parliez tout à l'heure dans le reportage de Google, ne représentaient qu'une quantité infime du chiffre d'affaires, c'était en général au maximum 1%. Et même compte tenu du chiffre d'affaires et de la capitalisation même boursière de ces mastodontes. Et donc l'idée, ça a été de dire lorsqu'on a travaillé sur cet acte sur les marchés numériques qu'il fallait des sanctions plus dissuasives. Et donc, on a souhaité imposer un minimum, d'abord un plancher minimum, et effectivement aller jusqu'à 20% du chiffre d'affaires. Actuellement, pour le droit de la concurrence, c'est jusqu'à 10%, et en général, c'est toujours autour d'1%. Et on voit que Google, qui avait écopé d'à peu près 10 milliards d'euros, si on totalise toutes les différentes violations et sanctions de droit de la concurrence, finalement, cette sanction de 10 milliards, elle représentait à 1% à peu près. Donc, il faut absolument jouer sur les sanctions et leur montant, mais pas uniquement. Et vous disiez, effectivement, est-ce que ce sera utile ? Je pense que ça doit être couplé avec des remèdes sur les marchés, à la fois des remèdes de comportementaux, hein, c'est-à-dire donner les accès à des concurrents, mais aussi des remèdes, pourquoi pas structurels, qui iraient jusqu'au démantèlement de ces géants. C'est aussi une des propositions qui est partagée par nos partenaires américains, alors qu'ils sont quand même très loin dans cette législation encore. Donc on est vraiment précurseurs en Europe, mais qui suivent ça de près parce qu'eux nous suivent sur cette idée d'aller très loin dans les sanctions jusqu'au démantèlement des géants.
Henri Isaac, cette philosophie, si vous ne faites pas ça, je vais vous mettre de grosses amendes, c'est un outil efficace selon vous pour lutter contre cette situation de monopole des GAFA, faire respecter le droit de la concurrence ?
Alors, là, on parle du Digital Market Act. Le Digital Market Act, il part d'un principe où les grands acteurs du numérique qui dépassent un certain seuil de chiffre d'affaires et de nombre d'utilisateurs en Europe doivent se déclarer. Donc, ça, c'est le préalable. Donc, ça va concerner globalement 5 entreprises essentiellement américaines pour l'instant. Et donc, après, le texte, dans ses articles 5 et 6, prévoit tout un tas de choses qu'elle va rendre obligatoires. Par exemple, elle va rendre obligatoire le fait d'ouvrir les données pour Google, notamment dans la publicité. Et donc, c'est au cas où ces obligations ne seraient pas respectées que l'Europe et la Commission qui appliquera le texte pourra décider de ces amendes. Et donc, il faut quand même comprendre qu'il y aura un dialogue entre ces acteurs du numérique et la Commission pour voir si justement ces obligations sont respectées ou non. Et donc, dans une régulation où on dit qu'on qualifie de ex ante, puisque par défaut, pour pouvoir rentrer dans le marché européen et y exercer une activité, il faudra respecter ces obligations. Et donc, il y aura un dialogue, comme il existe dans ce type de régulation, entre le régulé et le régulateur, et au terme duquel le régulateur décidera si oui ou non les obligations sont respectées, et auquel cas il décidera d'une amende.
Ça marche, en vous, pour justement respecter ce droit de la concurrence ?
Il y a dans les articles 5 et 6 un certain nombre d'obligations qui, concrètement et techniquement, seront peut-être un peu délicates à mettre en œuvre et qui vont nécessiter effectivement beaucoup de dialogue et de compétences de la part de la Commission européenne pour s'assurer précisément, par exemple, que les algorithmes qui sont utilisés ne sont pas discriminants et ne font pas de self-preferencing, qui est une question où je ne vais pas être un acteur de service numérique, ne pourra pas mettre en avant systématiquement ces services par rapport à d'autres. Et donc, il va falloir que la Commission se dote de tout un tas de compétences pour justement vérifier ces aspects-là, qui, on le sait, sont complexes techniquement, et que donc, c'est au terme de ces examens et de ce dialogue avec les régulés que la Commission pourra décider de sanctions ou non.
Oui, j'allais y venir. L'une des spécificités, vous l'évoquiez à l'instant de ce nouveau règlement, c'est d'agir en amont, en clair, plutôt que de mettre une amende une fois qu'on constate une violation de la loi et de courir en vain pendant des années après les abus de position dominante de ces multinationales. Bruxelles veut agir en amont en leur imposant une série d'obligations et d'interdictions censées empêcher les abus, mais qui, pour vérifier que ces interdictions et cette nouvelle réglementation est bien appliquée, Stéphanie Oncourtin ?
D'abord, peut-être, permettez-moi, si je puis juste
revenir
sur ce que Monsieur Isaac disait, qui était très intéressant. Effectivement, les sanctions, elles interviendraient et viendront si les obligations et les interdictions ne sont pas respectées. Mais l'idée du dialogue est quand même à moduler. C'est-à-dire que, justement, la philosophie du Digital Markets Act, l'acte sur les marchés numériques, cette régulation ex ante, c'est d'agir en amont et de gagner du temps et d'imposer des obligations et des interdictions qu'on dit auto-exécutoire, c'est-à-dire que pour une grande partie, une fois que les géants du numérique qui sont concernés par le DMA se sont déclarés comme tels, ils ont une obligation systématique de respect de ces obligations et de ces interdictions sans qu'il y ait de dialogue qui s'ouvre. Parce que justement, la problématique est qu'ils ont toujours essayé de gagner du temps, et si on instaure un dialogue avec eux, alors j'entends que pour certaines obligations, peut-être sur l'interopérabilité, il y aura des discussions. Mais la plupart de ces obligations et interdictions, elles devront se faire automatiquement, parce que sinon on risque d'avoir des procédures qui vont durer trop longtemps, comme justement ce qu'on essaie de vaincre dans le DMA par rapport au droit de la concurrence, qui n'a pas fait ses preuves, qui est trop long et qui n'est pas adapté au monde du numérique.
Donc en amont, une réglementation qui les oblige à respecter ces règles et être dans les clous au niveau du droit de la concurrence.
C'est-à-dire que c'est vraiment une régulation ex ante, hein. Donc c'est avec effectivement une liste d'obligations et d'interdictions qui vont devoir respecter le plus tôt possible. Et tout ça sera encadré dans effectivement des délais, parce que on sait très bien que c'est pas forcément dans leur nature à ces géants de respecter les règles. C'est eux-mêmes qui les fixent jusqu'à présent. Donc et on voit bien lorsque on voit leur réaction par rapport à ces réglementations que le vent est en train de tourner, elles le sentent, et donc je ne pense pas qu'elles vont aussitôt adopter ces réglementations sans aucun problème et délai et contournement.
Qu'en pensez-vous, Henri Isaac ? Le marché européen, c'est 450 millions de consommateurs. Est-ce que c'est un argument suffisant pour que ces géants du numérique se plient à ces réglementations ?
Ah bah oui, quand même. Je ne vois pas pourquoi ces acteurs-là se soustrairaient à cette réglementation. De toute façon, comme on l'évoquait au démarrage, la situation entre les années 2000 et les années actuelles a totalement changé. Et donc, je crois que ces différents acteurs, même si jusque pour certains, ont pas mal essayé de contourner les textes, ou en tout cas de les éviter, certains comprennent très bien que maintenant, ils vont plus avoir le choix, et que s'ils veulent opérer en Europe, ils devront respecter ces réglementations. Alors, certains sont plus ou moins enclins à les appliquer ou à les voir arriver, mais je pense qu'ils ont tous compris qu'ils ne pourraient pas s'y soustraire.
On parle d'un risque d'entraver la croissance de futurs géants européens. C'est un risque réel, selon vous, avec ces nouvelles réglementations ? Très lourd.
Non, est-ce qu'on va limiter la croissance de ces entreprises? C'est ce que le texte essaye, en tout cas, d'avoir comme objectif. Mais les attendus du texte sont aussi un peu différents. C'est-à-dire que le présupposé, c'est de dire que, bon, globalement, le droit de la concurrence n'a pas fonctionné. Deuxièmement, donc, il faut une autre réglementation, c'est le DMA. Et troisièmement, il faut qu'on limite, en fait, un certain nombre de pouvoirs de ces sociétés pour que l'innovation européenne puisse prendre sa place en Europe. Bon, c'est là où j'ai plus de doutes sur le fait que ce simple texte à lui seul, et il y a bien d'autres éléments que la Commission est en train de développer par ailleurs, qui sont nécessaires pour que l'innovation européenne trouve sa place. Et à cet égard, je ne suis pas complètement, totalement convaincu que c'est en freinant simplement 4 ou 5 grosses entreprises américaines que tout d'un coup, on va voir émerger plein de grandes entreprises numériques européennes. Voilà. Après, qu'on régule ces entreprises est absolument nécessaire sur certains des aspects que le texte contient. Maintenant, est-ce que ça, à lui seul, ça fera une vague d'innovation nouvelle? On peut l'espérer, mais je ne suis pas complètement convaincu.
Le règlement sur les services numériques, pour le coup, vise aussi à réguler la haine en ligne, la désinformation, le partage des données, à contrôler également les biens vendus sur les plateformes pour éviter les contrefaçons ou les produits dangereux. Comment l'Europe, Stéphanie Encourtin, je m'adresse à vous, compte s'y prendre pour gérer la bonne application de ces réglementations? On imagine qu'il y a une quantité colossale de contenu.
Oui. Moi, je pense que c'est de loin la législation la plus ambitieuse au monde en matière de lutte, effectivement, contre les contenus illégaux et préjudiciables en ligne. Une vraie législation de responsabilité des hébergeurs, de défense des droits des utilisateurs et consommateurs, et surtout de volonté d'harmonisation et de simplification, finalement, des règles qui existent un peu dans les différents États membres pour faire en sorte que, justement, on arrive à avoir un véritable marché numérique. Et je voulais juste revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, parce que c'est important de voir que, bien évidemment, ces textes ne sont pas l'alpha et l'oméga de la souveraineté numérique, de l'innovation, mais sont vraiment des textes qui sont un premier pas, c'est vraiment les premiers jalons pour bâtir un véritable marché unique numérique qui va permettre des champions européens. Et juste aussi redire que l'idée n'est pas de freiner certains pour en faire émerger d'autres. L'idée est véritablement de mettre en place des règles qui n'existaient pas et de faire en sorte que toutes les entreprises puissent exister sur les marchés sur lesquels elles souhaitent pénétrer par les mérites et non pas en écrasant les autres.
Vous n'êtes pas...
Donc ça, c'est important. Et donc sur l'acte sur les contenus, c'est vraiment une approche progressive en fonction de la taille des différents acteurs de l'écosystème numérique qui est mis en place, en fonction de leur rôle et en fonction aussi des risques qui pourraient poser pour la société. Donc le DSA, l'acte sur les services et les contenus, c'est véritablement d'abord une réglementation sociétale et elle pose à la fois un principe de graduation des responsabilités et des sanctions et d'harmonisation et de simplification des procédures avec des obligations renforcées forcément pour notamment les places de marché et pour favoriser les droits des utilisateurs et des consommateurs.
Oui, mais en attendant, Stéphanie Encourtin, pour réguler la haine en ligne, la désinformation, il faut, j'imagine, des personnes, des agences, pour être là, surveiller que les multinationales font bien ce qu'elles disent, enfin, appliquent bien les règlements.
Ah bah écoutez, c'est vrai que c'est la question effectivement de la mise en œuvre de ces règlements que vous posez, voilà. qui est clé et qui est très importante. Alors, il y a une idée, en tout cas en ce qui concerne le DSA, puisqu'on a dit que pour le DMA, l'acte sur les marchés numériques, c'est la Commission européenne qui va être compétente. Et l'idée pour le DSA, c'est de renforcer, d'avoir des obligations plus strictes pour les grandes plateformes et de renforcer le rôle de la Commission européenne, vous avez raison, pour la supervision des grandes plateformes, alors qu'effectivement, à ce stade, il faut voir que c'est quand même très important qu'on ait une application unifiée, harmonisée, et ça, c'est important. Et alors,
mais qui pour mettre en œuvre alors? Des agences, qui pour mettre en œuvre la bonne application de ces textes?
Alors, pour l'acte sur les marchés numériques, la grosse question qui se pose, c'est que la Commission européenne nous a dit qu'elle disposait de 80 personnes qui pouvaient appliquer le texte. Et à ce stade de son adoption, on ne sait toujours pas comment concrètement la Commission européenne va s'y prendre. Ce qu'on sait, c'est ce qu'on a appelé de nos voeux, c'est qu'il faut absolument que les autorités nationales de régulation et au premier plan desquelles les autorités de concurrence puissent être en relais et puisse effectivement soutenir la Commission européenne dans l'application de ces règles.
Henri Isaac, vous souhaitiez intervenir ?
Oui, alors le DSA, c'est une philosophie de texte très différente en droit. L'idée, c'est de dire il faut changer le régime de responsabilité des plateformes. Et là-dessus, c'est une très bonne chose que de dire des gens qui hébergent des contenus vont avoir un régime de responsabilité renforcé, c'est-à-dire qu'on va les obliger à respecter un certain nombre de principes, de règles de modération, de moyens mis pour justement réguler les contenus, notamment les contenus illicites. Et je rappelle que le texte tel qu'il est ne définit en rien la nature des contenus illicites. C'est justement dans le texte aux autorités nationales de définir ce qui est un contenu illicite. Donc l'harmonisation souhaitée, je crains qu'entre la Pologne et la France, on n'ait pas tout à fait la même notion de contenu illicite. Et donc on est sur l'idée que les plateformes vont avoir un régime où elles devront être conformes. Et donc si elles ne respectent pas cette conformité, c'est-à-dire qu'elles ne mettent pas de moyens suffisants, elles ne rendent pas compte des actions de modération et de retrait qu'elles mettent en place, alors elles seront soumises, comme dans l'autre texte, à des amendes qui vont être graduées aussi en fonction de la gravité des manquements à cette logique de conformité. Voilà. Et donc, effectivement, sur ce texte, la question qui va surgir, comme dans l'autre, c'est la question des moyens pour appliquer quelque chose où il faut s'entendre sur ce qui est un contenu illicite. Alors, le texte en plus aborde et la question des contenus dont on a parlé, des contenus qui sont soit des vidéos, soit du texte, et des choses de cette nature-là. Et puis d'autre côté, régule aussi les marketplaces, c'est-à-dire les places de marché comme Amazon Marketplace, sur lesquelles il pourrait y avoir des contrefaçons et des produits illicites. Donc le texte dit que les places de marché, elles doivent faire une chose très simple, c'est de vérifier qui sont les vendeurs. Et que les vendeurs sont des gens qui ont pignon sur rue, payent leur TVA, et qu'ils ont l'autorisation finalement de vendre ces produits sur la plateforme, et que si on n'a pas ces informations, alors c'est la plateforme qui est responsable de ces ventes. Donc il y a un régime de responsabilité renforcé, et ça c'est très bien. Bon, la question c'est l'applicabilité, encore une fois, c'est de dire, est-ce qu'on va se donner les moyens de faire appliquer ces textes et, en l'occurrence ici, est-ce que c'est, encore une fois, la Commission qui va récupérer la totalité de l'application de ce texte, dont on voit la portée qui est quand même très large, ou est-ce qu'il faut des autorités nationales renforcées qui ont des moyens de faire appliquer localement ce texte ? Moi, ce que je comprends du texte aujourd'hui, c'est que ne définissant pas la nature des contenus illicites, renvoyant ça aux questions des États, il va y avoir quand même des variations d'un État à l'autre sur ce qu'on considère comme illicite ou non. Bon, il y a déjà eu en France, notamment autour du projet de loi Avia, une censure majeure de ce texte sur les retraits de contenus. Et on voit bien que c'est un sujet qui est très sensible selon les cultures nationales, avec des enjeux de liberté d'expression d'un côté et des enjeux de garantie de la sécurité en ligne. Et donc c'est une voie étroite que chaque législation va devoir trouver pour faire appliquer et rendre ce texte homogène au niveau national, européen, pardon.
Stéphanie Yoncourtin, comment l'Europe va-t-elle gérer ces différentes applications d'interprétation entre les États membres et la Commission ?
Il y aura d'abord effectivement des recours, et je peux vous dire qu'il y a déjà des recours sur les textes qui sont prévus par, bien évidemment, les acteurs qui vont être concernés par ces textes et qui sont en train de faire travailler des petits bataillons d'avocats pour voir comment on peut justement attaquer la Commission pour l'application ou mauvaise application de ce texte. En fait, c'est vrai que la philosophie de ces textes, c'est quand même est un petit peu différente dans le sens où l'acte sur les marchés numériques, il a notamment la volonté de faire en sorte que ce soit la Commission qui soit le seul pilote dans l'avion, donc qui soit le seul appliquant, la seule autorité régulatrice, avec bien évidemment une articulation très claire avec des autorités de régulation, comme j'ai dit. S'agissant de l'acte sur les services numériques, effectivement, il y a notamment une volonté d'une décentralisation un peu plus claire, c'est-à-dire que les travaux se feront par les coordinateurs nationaux. En France, par exemple, l'ARCOM, vous savez, la nouvelle autorité issue de la fusion du CSA et de la DOPI, avec la supervision de la Commission européenne. Donc, l'idée, c'est que pour le DSA, ce soit national, c'est en fait le principe du pays d'origine, qui est vraiment un principe fondateur de notre marché unique, mais pour éviter des blocages, comme on a pu le voir avec le RGPD, on souhaite, il est important que la Commission européenne puisse jouer un rôle d'arbitre si besoin. Donc entre les deux textes, il y a une petite différence et qui tient notamment au fait que l'acte sur les services numériques est beaucoup plus objectif et beaucoup plus culturel. Et effectivement, la définition même de contenu illicite est très différente et est vue très différemment d'un pays européen à un autre.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi.
Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Regarde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on consomme, et c'est comme ça qu'on s'aime.
Stromae le décrit avec humour dans cette chanson Carmen, les pièges du monde virtuel. Carrefour de l'Europe se penche aujourd'hui sur la volonté de l'Europe de mettre de l'ordre dans son économie numérique, réguler les multinationales du web pour mettre fin à leur situation de monopole, mais aussi encadrer les données auxquelles ils ont accès pour la pub et via les algorithmes. Ces règlements européens sont inédits et ambitieux. Avec nous pour en parler, Henri Isaac, vice-président du think tank Renaissance Numérique et maître de conférence à l'université Paris-Dauphine en système d'information. Stéphanie Yoncourtin, eurodéputée dans le groupe Renew Europe et vice-présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires. Alors, pouvoir supprimer rapidement des contenus illicites, c'est l'un des enjeux cruciaux de ce nouveau règlement pour les citoyens européens. Exemple avec le revenge porn, cette pratique qui vise à diffuser sur Internet et sur les réseaux sociaux des images intimes sans le consentement de la personne concernée. La pratique est en augmentation, tout comme le harcèlement en ligne. Et les États européens, tous, peinent à supprimer rapidement ces contenus et à protéger les victimes. Je vous propose d'écouter le reportage de Cécile Debarge.
Emma Holten est une Danoise de 30 ans. Son histoire ressemble à celle de nombreuses victimes de revenge porn, si ce n'est que la sienne a toujours des conséquences sur sa vie actuelle, 10 ans après la diffusion de photos dénudées qu'elle avait envoyées à son petit ami de l'époque.
Je me suis réveillée et je ne pouvais plus accéder à ma boîte mail. Le mot de passe avait été changé. Lorsque j'ai enfin pu récupérer l'accès à ma boîte mail et à mon compte Facebook, je me suis rendu compte que mes images avaient été partagées, d'abord sur la plateforme 4chan. Et le temps que je me réveille, mes images avaient déjà été postées sur plusieurs sites avec de nombreuses informations personnelles comme mon numéro de téléphone, mon adresse, des photos, toute ma liste d'amis Facebook. Tout ça avait été réuni dans un gros fichier avec des incitations à me harceler.
À l'époque des faits, la jeune femme a 20 ans. Sur les réseaux sociaux, à son domicile, au téléphone, elle est harcelée, insultée, humiliée. Elle souhaite porter plainte. Les policiers lui répondent que ce n'est pas très grave, elle est simplement nue et non pas en plein acte sexuel. Il ne dresse aucun rapport, ne mène aucune enquête. Depuis 2011, Emma ne sait toujours pas qui a piraté ses comptes. Elle a enfin réussi à faire disparaître les images après des années d'efforts. Depuis 2014, en Europe, un arrêt de la Cour de justice européenne reconnaît le droit à l'oubli numérique et permet aux usagers d'exiger le retrait des contenus les concernant. En France, c'est ce que fait l'association Point de Contact. Quentin Austin en est le directeur des opérations.
On reçoit le signalement, donc nous, sur une interface. On fait une qualification juridique. Et à partir de là, fait un signalement aux autorités et concomitamment aux hébergeurs.
Point de Contact forme le réseau Centre français pour un Internet plus sûr avec deux autres associations. Samuel Comblet est le directeur des opérations. Il est aussi psychologue de l'enfance et de l'adolescence.
Les ados nous demandent de retirer les contenus et de faire en sorte qu'on n'en parle plus. Les ados, ils en ont que faire de savoir que les auteurs vont être punis. Par contre, les parents, la première chose qu'ils nous demandent, avant même qu'on ait retiré les contenus, c'est comment on va sanctionner les auteurs.
Bien à l'abri derrière leurs écrans, les auteurs de revenge porn se sentent souvent intouchables et dans une immense majorité des cas restent impunis. Pourtant, poster du contenu intime à l'insu de la victime est une forme de violence à part entière, dont les conséquences vont bien au-delà de la sphère virtuelle. Les confinements liés à la crise sanitaire du Covid-19 ont eu un effet d'accélérateur sur ce phénomène, révélant l'urgence de mieux l'identifier et mieux le punir.
Alors on l'a entendu, pour l'heure, il est très difficile de supprimer rapidement les contenus et donc d'éviter que des sites pornographiques, par exemple, ne diffusent des images volées. Stéphanie Encourtin, le règlement sur les services numériques permet-il d'améliorer cette situation ?
Alors non, il n'y a pas de provision forcément sur le temps de retrait. Le retrait en 24 heures de la loi Avia avait d'ailleurs été retoqué par le Conseil constitutionnel, mais il y a quelques obligations additionnelles qui sont prévues pour les plateformes principalement utilisées pour diffuser du contenu pornographique. Donc effectivement, si c'est juste le contenu pornographique, mais pour par exemple tout ce qui est terroriste, il y a des régulations spécifiques, le règlement antiterrorisme avec le retrait en une heure. Donc en fait, il faut quand même bien voir que, effectivement, nous on aurait souhaité des obligations accrues sur tout ce qui concerne le retrait. Et bien évidemment, c'est quelque chose qui achoppe entre les différents pays. Je l'ai dit, c'est quand même très culturel, ce règlement DSA, qui est donc un règlement de sociétal. Et donc, il est plutôt vu comme un règlement horizontal, assez général, comme je vous disais tout à l'heure, d'harmonisation avec un renvoi aux autres régulations plus spécifiques. Alors, quand même, malgré tout, les plateformes, et encore plus les grandes plateformes, devront mettre tous les moyens nécessaires pour s'assurer d'un retrait effectif des contenus illicites. Et on donne davantage de droits, d'ailleurs, aux utilisateurs pour faire plus facilement contester le retrait si besoin. Soit demander le retrait, soit contester. Donc, il y a quand même des moyens, effectivement, qui sont donnés, mais la question reste encore celle des contenus illicites. Qu'est-ce qu'on appelle un contenu illicite ? Et d'un pays à l'autre, eh bien, c'est très très différent. Et c'est pour ça qu'on va renvoyer à des textes précis particuliers avec une obligation de moyens qui, pour nous, ne nous satisfait pas. Et nous, clairement, en Réunion, en tout cas Renaissance, notre délégation française, on aurait souhaité aller plus loin.
Alors, il y a cet article 14 du règlement qui veut obliger les services en ligne à retirer les contenus illicites dès qu'ils en ont connaissance, mais les informations restent accessibles tant que l'évaluation de leur légalité est en cours. Est-ce qu'on aurait pu mieux faire, Henri Isaac ?
Si on veut rester dans l'état de droit, je ne crois pas. Et c'est bien ce que le Conseil constitutionnel français a censuré dans le texte de Madame Avia. Et donc, il y a un équilibre complexe à trouver entre la liberté d'expression d'un côté et la protection des individus. Et c'est cet équilibre qui est compliqué à trouver. Donc, bien sûr qu'il faut renforcer les obligations qui pèsent sur les plateformes dès lors qu'une décision de justice est prise. Mais c'est là que je voudrais en venir. C'est que, globalement, pour que les décisions de justice soient prises rapidement, il faut mettre beaucoup de moyens, et c'est aux systèmes judiciaires nationaux et français en particulier, de s'adapter à ce nouveau contexte numérique dans lequel, oui, il faut de la diligence pour prendre ces décisions, et donc il faut que les États et les gouvernements fournissent à leur justice des moyens qui soient adaptés à ce monde. Et donc, si vous prenez le service Pharos en France, qui est le service de la gendarmerie en charge du signalement de ces contenus, il est totalement sous-dimensionné par rapport à la pratique et aux usages des Français. Et donc, de ce point de vue-là, bien sûr qu'on ne peut que se réjouir de voir qu'on oblige les plateformes à davantage de moyens et de diligence, mais il faut que les États aussi, de leur côté, fassent le travail pour doter leur système judiciaire d'outils rapides qui permettent aux victimes, parce qu'on parle souvent de victimes, effectivement, et là-dessus, on est complètement d'accord, pour que les victimes obtiennent une décision de justice rapide. Et ça, objectivement, Renaissance numérique pointe ce sujet depuis des années. Et de ce point de vue-là, les États n'en font pas tous les mêmes efforts.
Alors, un autre point de ce texte sur les services numériques. Les eurodéputés ont complété le texte de la Commission pour mettre fin à la collecte des données utilisées à des fins de ciblage des mineurs ou de personnes vulnérables. Comment ça marche, Stéphanie Encourtin ? Est-ce que ça marche ?
Oui, en fait, c'est effectivement l'idée de dire qu'il faut renforcer les droits des personnes vulnérables en matière de publicité ciblée. Il faut avouer que ça a été une lutte un peu entre différents députés parce que certains voulaient absolument complètement mettre fin à la publicité ciblée, qui n'était même pas le sujet ni dans le DMA ni dans le DSA. Or, effectivement, on s'est accordé sur le fait qu'il fallait absolument un consentement plus éclairé pour les mineurs et les personnes plus vulnérables par rapport à la publicité ciblée.
Alors, il y a la difficulté de réguler les contenus illicites, mais il y a aussi les données personnelles. Les jeunes Européens surfent de plus en plus tôt sur Internet. 63% des moins de 13 ans ont au moins un compte sur un réseau social. Mais comment gèrent-ils l'accès à leurs données personnelles ? Alice Roujat nous en dit plus.
Alors, je ne sais pas vous, Léa Lisa, mais moi, je ne lis pas les conditions générales d'utilisation d'un site. Je clique bêtement sur « Accepter » pour pouvoir accéder à un contenu. Ainsi, en pleine conscience, je donne mon accord à une entreprise pour qu'elle vende mes données à d'autres entreprises. Et pour ça, vraiment, il faudrait me taper sur les doigts. Mais je ne suis pas la seule. Et si cet exercice de lecture et de compréhension du contrat me dépasse, on peut facilement imaginer que ce soit le cas des plus jeunes aussi.
Alors, ce contrat que l'on peut accepter ou refuser, c'est l'une des protections qu'offre aux utilisateurs le RGPD, le Règlement Général Européen sur la protection des données personnelles.
Oui, et ce règlement a bien pris en compte la vulnérabilité des enfants sur Internet. Entré en vigueur en 2018, il impose notamment aux entreprises du numérique une information adaptée aux mineurs. Concrètement, ça veut dire des conditions générales d'utilisation lisibles et claires et dans la langue de celui ou celle qui les lit.
Sauf que cette disposition, même depuis la mise en vigueur du règlement général de la protection des données, n'est pas toujours respectée, Alice.
Et c'est là tout le problème. Les entreprises numériques et notamment les réseaux sociaux sont censés appliquer ces règles, mais elles ne le font que partiellement. Instagram, premier réseau social des 15-18 ans, a une fonctionnalité qui permet de voir à quelles entités commerciales on a transmis des informations personnelles. Tout ça, c'est très bien.
Je sens qu'il y a un mais.
Oui, tout ça, c'est très bien, mais ce n'est pas automatique. Il faut d'abord être au courant que ces fonctions existent et puis trouver où et comment les activer. Sauf que selon une étude menée à l'échelle européenne, ce n'est pas si évident pour les 11-18 ans. Un exemple ? Un tiers des sondés a déjà essayé de supprimer son compte d'un réseau social et parmi ceux-là, plus de la moitié n'ont pas réussi à le faire.
Et les géants du web ne peuvent pas être sanctionnés pour cette illisibilité ?
Si, si, bien sûr. S'ils ne respectent pas le règlement européen, ils peuvent écoper d'une amende allant jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires mondial. Récemment, l'Irlande, les Pays-Bas, le Danemark et la France ont ouvert une enquête à l'encontre de TikTok, application utilisée par 50% des 11-14 ans. La firme est soupçonnée de transférer des données vers la Chine.
Alors on le voit bien avec cet exemple, Henri Isaac, avoir un bon texte comme le règlement sur la protection des données personnelles, le consentement, etc., ça ne suffit pas.
Non, ça ne suffit pas parce que le RGPD est un texte qui a été discuté il y a maintenant quelques années, dont l'application bute précisément sur le fait que les grands acteurs des services numériques ont domicilié leur établissement principal en Irlande et que la CNIL irlandaise, hein, donc l'autorité de protection des données irlandaise qui est en charge de ces différentes enquêtes, bon, globalement traîne un peu des pieds dans l'application de ça et puis est submergée par les dossiers. Et donc très peu de décisions sont prises au final sur la base du RGPD. Et concernant la question du ciblage et des données en ligne, il n'y a pas simplement que le RGPD. Il y a un autre texte qui s'appelle e-privacy qui concerne les cookies.
Oui.
Vous voyez ces petites fenêtres qui, à chaque fois que vous ouvrez un site, vous demandent si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Bon, et là, de ce point de vue-là, il y a une certaine incohérence entre le RGPD et cette directive e-privacy qui est discutée depuis de nombreuses années au niveau européen et sur lesquelles on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et donc, entre-temps, les autorités de régulation des données privées locales comme la CNIL en France essayent d'adapter ce règlement sur les cookies, c'est-à-dire les cookies, c'est ce qui permet de tracer nos comportements en ligne. Et donc, c'est ça qui intéresse le ciblage publicitaire. Et donc, effectivement, on est dans une zone aujourd'hui qui n'est pas très efficace, on va dire, en tout cas du point de vue du citoyen européen qui, globalement, pense que le RGPD le protège. Mais en fait, il y a une partie qui est gérée par e-privacy qui n'est toujours pas mise à jour. Et on voit tous ces pop-up là et on voit que, globalement, la collecte plus ou moins légale continue. Et que, au final, ben, on n'a pas vraiment sensiblement, en tout cas en termes d'expérience utilisateur, augmenté la confiance dans les systèmes numériques qui collectent des données sur nous. Et surtout, l'utilisateur n'a pas encore retrouvé pleinement la main sur le contrôle de ces données. Donc là, c'est vrai que sur cette partie-là, il y a encore beaucoup de chemin à faire, notamment pour arriver à quelque chose d'assez efficace entre la réglementation des données personnelles et la réglementation des cookies, qui sont deux choses qui, évidemment, se rejoignent et pour lesquelles l'Europe, aujourd'hui, n'a toujours pas trouvé une solution efficace.
Alors, Stéphanie Yoncourtin, comment peut faire l'Europe pour résoudre ces problèmes de contradictions juridiques, de vide juridique et ces problèmes d'application des règlements européens ?
Oui, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on est passé, en fait, du un peu rien au tout, ou du très peu, en termes de réglementation, à beaucoup, qu'il faut effectivement absolument mieux articuler et mieux coordonner. Moi, je voulais revenir sur ce qui a été dit, effectivement, notamment dans votre reportage, et ce que vous disiez, où la protection n'est pas respectée hein, des données personnelles par, oui. par Insta et d'autres. Et ça, ça fait écho à ce que récemment, Facebook a menacé dans ses déclarations en disant qu'il allait retirer tous ses services à cause des règles sur le RGPD, que ce soit Instagram, Facebook, WhatsApp et autres. C'est une menace qui n'a pas été suivie d'effet parce que, et vous le disiez tout à l'heure, plus de 450
millions... Oui, c'est faux, ça n'a pas eu lieu, donc...
Et ça n'a pas eu lieu, mais c'est quand même une menace
mais
là
qu'ils
ont essayé de brandir. Moi, je crois que le RGPD, et c'est aussi... Ça montre aussi à quel point maintenant les GAFAM sont affaiblis quand même par ces réglementations qui sont perfectibles, qui sont que véritablement des premiers pas, mais qui montrent que les acteurs privés doivent s'y soumettre et que ce n'est plus à eux de faire la loi. Il y a un besoin, si je puis dire, d'interopérabilité entre les différentes réglementations. Et effectivement, celle sur les données personnelles et sur les cookies privacy, RGPD et puis DSA doivent bien évidemment s'articuler. Ça, c'est très clair. Et c'est la pratique, l'application de ces textes et puis aussi la jurisprudence qui viendra le faire.
Mais comment l'Europe peut-elle améliorer justement cette application, puisque le mineur, comme on l'entendait à l'instant, qui donne son consentement, sait qu'il peut le donner, mais ne sait pas finalement exactement à quoi il le donne. Comment améliorer la sécurité pour le citoyen européen ?
Bah, c'est une bonne question. D'abord, moi, je pense que la première des choses, c'est que c'est aux GAFAM d'essayer de respecter davantage et de s'engager sur un meilleur respect de la protection des données. Et ça, je pense que c'est important parce que on avait vu Frances Haugen qui travaillait pour Facebook, vous vous souvenez, qui avait été auditionnée notamment par le Parlement européen et qui disait que c'était un gros sujet, hein, l'absence de transparence, de protection des données et que ce qui véritablement motiver ces géants, c'était bien évidemment le profit et non pas le respect des personnes. Donc moi, je pense que là-dessus, il faut que ces réglementations, elles soient strictement appliquées de façon à ce que ces géants voient que ce n'est pas à eux hein, d'imposer leurs propres règles. Hein. Et donc, effectivement, nous, on travaille bien évidemment sur cette volonté de consentement renforcé, consentement éclairé pour les plus vulnérables, dont les mineurs, mais ça reste encore très compliqué. Donc, c'est une première étape qui, effectivement, n'est pas parfaite sur de nombreux points et qui, moi, je pense, va choper notamment sur la problématique également de vrais experts du numérique dans les autorités publiques, quelles qu'elles soient, que ce soit la Commission européenne ou les autorités nationales de réglementation et de régulation, qui n'ont pas encore les équipes, finalement, encore très expertes dans le domaine et qui ne fait qu'évoluer. Et je pense que ça, ce sera aussi un vrai sujet pour régler cette problématique d'asymétrie d'information où on a des géants qui contrôlent tout et qui ont une maîtrise numérique beaucoup plus importante que les autorités publiques. Il y a vraiment un temps d'avance. Et on dit souvent, d'ailleurs, que ces GAFAM, ces géants du net, sont plus puissants que les États. Il faut donc maintenant renverser la vapeur, si je puis dire.
Oui, est-ce que l'Europe n'est finalement pas toujours forcément en retard, n'arrive pas toujours trop tard avec ces règlements, Madame Yoncourtin ?
Ah ben là, je ne pense pas. Je pense qu'on est arrivé, il était temps. Il était temps, mais si vous regardez les autres grosses régions du monde, les États-Unis nous suivent avec beaucoup d'intérêt parce qu'ils n'ont encore rien fait par rapport aux géants. Il y a eu des idées, je vous ai parlé du démantèlement notamment comme remède. Et les Chinois non plus, dans le sens où c'est véritablement une réglementation la plus aboutie qui est proposée et face finalement à un défi, à un enjeu qui est majeur et mondial.
Henri Isaac ?
Oui, l'Europe a un train de retard ou un train d'avance, c'est difficile à dire, c'est par rapport à qui ? Il est clair que les États-Unis ont pendant, en tout cas, les présidences Obama plutôt laissé ces grands acteurs se développer, parce qu'évidemment, ils contribuent à la puissance américaine et au rayonnement des États-Unis en dehors des États-Unis, et donc à la puissance américaine tout court, tout simplement. L'Europe réagit, et tant mieux, pour essayer de, évidemment, contenir une partie de cette puissance. Les Américains, effectivement, parlent beaucoup de désormais limiter la puissance de ces grandes entreprises. On voit bien que l'agenda politique actuel du président Biden n'est pas très favorable pour qu'il avance rapidement sur ce sujet. Voilà. Et ensuite, après, beaucoup aux États-Unis parlent de démantèlement de ces grandes entreprises. Bon, quand on regarde dans l'histoire de l'antitrust américaine, les démantèlements n'ont jamais été si efficaces qu'on ne le pensait. Autrement dit, d'un point de vue économique, si on séparait YouTube, par exemple, de Google, est-ce qu'on résoudrait le problème de la puissance publicitaire de Google ? C'est une question qui est ouverte. Est-ce qu'on résoudrait, en démantelant WhatsApp, Instagram, de Facebook, les questions de haine en ligne ? Je ne le crois pas. Donc les remèdes structurels qui sont historiquement les outils de l'antitrust américain, je les vois mal comme étant une réponse aux différents problèmes qu'on a évoqués jusqu'ici. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes économiques sur lesquels éventuellement des démantèlements peuvent résoudre une partie du sujet, mais l'histoire a montré que ce n'était pas si simple que ça. Et puis d'autres types de problèmes où le démantèlement n'apporte aucune solution au sujet qu'on vient d'évoquer, notamment les questions de cyberharcèlement, haine en ligne, contenu illicite, où là, le démantèlement n'est absolument pas une réponse à ces questions.
Comme on l'a dit, une première étape avec, à l'échelle du monde, une législation qui n'a pas d'équivalent à cette tentative de l'Europe de reprendre la main à voir dans les prochains mois.
Oui, alors l'Europe a toujours été un continent sur lequel la régulation a occupé une place centrale, notamment dans la construction de l'Europe. L'Europe s'est quand même construite sur le droit de la concurrence et l'établissement d'un marché unique, donc avec une philosophie très importante. Là, sur le numérique, elle dit « Ok, il y a nécessité d'une régulation ». La question qu'on peut se poser, c'est « Est-ce qu'on fait les bonnes régulations ?» Moi, je pense qu'on a des choses qui sont pas si simples que ça, en fait, et dont les effets, on va attendre de voir ce qu'ils produisent. Mais je ne suis pas convaincu à 100% que ça soit ça qui va nous permettre de rivaliser avec les grandes puissances numériques que sont les États-Unis et la Chine. Et que de ce point de vue-là, il faut aussi qu'on respecte un certain nombre de principes qui caractérisent l'Europe, c'est-à-dire la liberté d'entreprendre et aussi la liberté d'expression. Et que ces textes posent ces questions de façon nouvelle avec des arbitrages dont on voit qu'ils sont, pour ces deux sujets, pas si simples finalement à réguler.
Pour conclure, Stéphanie Encourtin, vous l'avez dit, à l'échelle du monde, il n'y a pas d'équivalent de la tentative de l'Europe de reprendre la main. C'est une première étape qui va améliorer les choses, selon vous ?
C'est clairement une première étape. C'est vraiment les premiers jalons. Pour moi, le premier étage de la fusée vers la souveraineté numérique de l'Europe. Et donc, c'est des textes qui doivent être appliqués le plus tôt possible. Ça y est, là, ils vont être appliqués dans quelques semaines. Et puis, bien évidemment, qui sont perfectibles. Et les co-législateurs que nous sommes, Parlement européen, veilleront effectivement à les modifier. Et ils sont de toute façon faits pour cela, parce qu'on sait que les marchés numériques évoluent tellement rapidement qu'on doit absolument partir d'un texte. Et puis c'est en marchant qu'on apprend. Et donc moi je suis convaincue qu'il va falloir qu'on les modifie et qu'on les adapte sans arrêt au contexte d'évolution très, très importante des marchés numériques.
Carrefour de l'Europe à la réalisation, Ludivine Amado. Merci à nos invités, Stéphanie Encourtin, eurodéputée dans le groupe Renew Europe et vice-présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires, Henri Isaac, vice-président du think tank Renaissance Numérique et maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine en système d'information. Merci à vous deux, à bientôt.